Henri de Régnier, La double maîtresse, troisième partie, chapitre 13. Il fallut qu'Angelino lui tînt la main pour qu'il traçât les lettres de son nom au bas d'un billet destiné à M. Dalphy. Angelino descendit pour cela aux cuisines où M. de Galando s'était réfugié de son propre gré et d'où il ne sortait plus guère. Il vivait à l'office et au vestibule, devenu un serviteur modèle. Il s'était mis, de lui-même, à la besogne qu'on voulait bien lui confier. Ni la Julia, ni Jacopo, non plus que la Romagnole, ne le ménageaient. Aucun travail, d'ailleurs, ne semblait le rebuter, et, peu à peu, il en vint au plus bas et au plus commun. Il s'y montrait actif et taciturne, allant et venant sans bruit. On le voyait, les manches retroussées sur ses bras maigres, faire luire des fonds de casserole et récurer des culs de chaudron. Parfois, il s'oubliait à frotter le même objet indéfiniment d'un geste régulier qui le continuait sans nul doute jusqu'au soir si Jacopo ou la Romagnole n'y eussent mis fin. Bonne femme, d'ailleurs, cette dernière l'employait à mille services sans le rudoyer. Jacopo aussi le traitait avec douceur. Ces gens, depuis qu'il avait perdu à leurs yeux, si l'on peut dire, sa qualité de maître, le considéraient comme l'un d'entre eux et en usaient bien avec lui. La Romagnole, en particulier, l'estimait même pour son habileté à plumer les volailles. Il s'en acquittait fort bien. Assis sur un escabeau, il tenait le poulet entre ses jambes et le nettoyait avec un soin minutieux des moindres duvets. Puis, une fois la bête nue en son aspect piteux et grelottant, il regardait d'un air singulier les petites ampoules de sa chair dépouillée. Le travail de M. de Galando ne se bornait pas là. Il épluchait les légumes. Ses yeux pleuraient aux aigreurs des oignons et des os, et la journée ne se passait guère sans qu'il plongeât dans l'eau tiède les plats et les assiettes. M. de Galando lavait la vaisselle, maniait le torchon et le balai. Et Jacopo l'avait instruit à battre les vêtements, à cirer les souliers et à vider les pots. Moyennant cela, M. de Galando vivait assez tranquille. Il avait quitté sa chambre d'autrefois et logeait maintenant au rez-de-chaussée, non loin de Jacopo. Il mangeait à l'office, et quand, à table, il entendait quelques vilains propos sur la signora, il rougissait et baissait le nez. Les diverses amours d'Olympia étaient le sujet de plaisanteries assez grossières. La dame, cette année-là, recevait beaucoup de monde. Il y avait à Rome affluence d'étrangers dont Angelino ne voulait pas perdre l'aubaine. Ce fut ainsi que M. de Galando entendit parler de Tobison de Tottenwood. Il le vit même passer dans le vestibule et monter l'escalier. La haute taille de M. Tobison, sa perruque blanche à rouleaux, sa figure sanguine, sa corpulence, ses larges pieds chaussés d'énormes souliers et son vaste habit cramoisi lui firent une forte impression. L'Anglais avait pris ses quartiers chez la signora. Il était généreux et bizarre. On en parlait beaucoup à l'office. Jacopo, qu'il avait vu au lit, racontait qu'il y tenait une place formidable et l'emplissait tout entier d'un amas de chair musculeuse et blanche, et qu'à chaque mouvement, le bois craquait sous le poids du gigantesque personnage. M. de Galando fut appelé à en juger par lui-même, car, un matin, Jacopo, ayant été pris de fièvre, ce fut lui qui dut le remplacer et aller chercher l'habit et les souliers du Milord pour les mettre en ordre. Il entra sur la pointe des pieds, et ressortit de même, sans avoir rien vu, comme s'il eût à pénétrer dans la chambre de l'ogre. M. de Galando aidait la Romagnole à mettre à la broche une poularde grasse pour le souper, quand Angelino parut subitement à l'office. Il s'approcha avec politesse du vieux gentilhomme et le pria, avec force prévenance inusitée, de vouloir bien le suivre dans la galerie où on les attendait tous deux. Le trouble de M. de Galando fut d'autant plus grand qu'Angelino le fit passer devant lui et lui céda le pas. Ils trouvèrent là M. Tobison de Tottenwood, qui, à leur approche, se leva du fauteuil où il était assis et salua gravement. M. de Galando, pour ne point demeurer en reste, répondit au salut de l'Anglais par des révérences à la française, dont la cérémonie contrastait singulièrement avec la souquenille verdâtre qu'il portait et le petit bonnet qu'il roulait entre ses doigts avec embarras. Mais son étonnement redoubla quand, outre Olympia, il vit, debout, en sa taille naine et l'aune à la main, le petit tailleur Cozzoli en personne. Stupéfait, Monsieur de Galandot regardait le pavé et tiraillait le coin de son tablier graisseux. « Vous allez prendre mesure à monsieur le comte de Galandot, » dit, après un silence, monsieur Tobison, en se rasseyant dans son fauteuil. « Et je veux que l'habit soit fort beau. Servez-vous d'un bon velours pistache que vous galonnerez pour le mieux. N'épargnez rien et faites promptement. » Monsieur de Galandot, interdit, se laissa faire. Cozzoli tournait autour de lui et le mesurait en tous sens. Monsieur de Galandot écartait les jambes, ployait le bras, se prêtait à tout docilement. « Votre seigneurie sera contente, » jacassait Cozzoli affairé. « Allons, voilà qui est bien. Ah, votre seigneurie a maigri, quoiqu'elle ait l'air de se bien porter. Comme le temps passe pourtant. On ne vous voit plus à la boutique. Notre Maruccia a une fille, notre Teresa deux jumeaux. C'est trop d'enfants et pas assez de pères, car Teresa est si distraite qu'elle a oublié de passer par l'église. Que votre seigneurie veuille bien se tourner. Encore un moment. » L'eau ne s'agitait aux mains du petit tailleur, tantôt accroupi, tantôt dressé sur la pointe de ses pieds. « Ah, cet habit-là me manquait. Je me disais toujours, « Cozzoli, tu as beaucoup habillé, et tu n'habilleras donc jamais le seigneur comte de Galandot. Ah ah, vous allez voir, milord, je couperai en plein velours, si ma pauvre tante Barbara vous pouvait donc voir ainsi. Mais elle est morte, la pauvre femme, 3 jours après les noces de Maruccia, du saisissement d'avoir trouvé son poulailler saccagé, les œufs brisés, les couveuses parties et les pigeons envolés jusque sur le dôme de Saint-Pierre. Et vous savez, la pie, c'est encore le nom de votre seigneurie, quoique la pauvre bête soit borgne maintenant. » Et M. Cozzoli, ayant replié son bagage, salua la compagnie et s'esquiva dans une pirouette. M. Tobison de Tottenwood se leva de nouveau de son fauteuil. « Maintenant, Angelino, tu vas pourvoir M. le comte d'un bon appartement. Dans 3 jours, vêtu comme il sied, il reprendra à table la place qu'il n'aurait jamais dû quitter et qui appartient à sa qualité de gentilhomme. Et tu le traiteras désormais comme il convient que le soit quelqu'un de sa naissance et de son âge. Et si, au lieu que ce fût un simple seigneur de France, que tu eusses ainsi méconnu, c'eût été un bourgeois de Londres, je t'aurais démis la mâchoire, brisé les dents et rompu les côtes. » Et debout, en son grand habit rouge, M. Tobison serra d'une façon significative son poing puissant, velu de poils fauves et cordé de veines bleuâtres. Angelino se mordit les lèvres. Il se repentait maintenant d'avoir trop parlé et d'avoir raconté à l'anglais l'état et l'histoire de M. de Galandot. Contre sa prudence habituelle, il avait cédé pour une fois au plaisir de faire un bon compte et de divertir le milord, en même temps que de lui donner une haute idée de son adresse et de son esprit. Il n'était pas fâché non plus de mettre en valeur la force des charmes d'Olympia, puisqu'il paraissait évident que c'était par amour pour elle que le seigneur français subissait depuis plus de 5 années les diverses servitudes dont aucune ne décourageait sa curieuse obstination à les préférer toutes, plutôt que de renoncer à une habitude d'autant plus surprenante que les causes en demeuraient obscures et secrètes pour tous ceux qui ignoraient les circonstances de la vie de M. de Galandot, et comment le passé s'en reliait par un nœud subtil et inattendu à l'inexplicable présent. Qui eût pensé que le pauvre gentilhomme servait en une double maîtresse le fantôme d'un amour unique et 2 fois 20. Angelino ne voyait là qu'un beau trait de singularité et une belle figure d'extravagance. Aussi mit-il tous ses soins à sa narration, l'agrémenta de pantalonnades et de bouffonneries propres à dilater la rate du milord. Son récit terminé, il s'attendait donc à voir M. Tobison éclater d'un de ces accès de rire qui lui faisait en une bouffée monter au visage toutes les couleurs de l'apoplexie future et secouait sa gigantesque personne d'un orage de gaieté. D'ordinaire, M. Tobison ayant ri, devenait fort généreux. Étant de son naturel hypocondre, et le moment était alors favorable pour qu'Olympia obtint de lui quelqu'une des belles et précieuses pierres dont il portait toujours dans ses poches un assortiment varié. Mais cette fois, le résultat fut tout autre. L'anglais resta froid. Une rougeur lui monta bien au visage, mais, au lieu de se résoudre en rire, elle termina par un épouvantable coup de poing qui effondra, avec toute sa verrerie, la table devant laquelle il était assis. En même temps, Angiolino se sentit pris au collet, enlevé de terre par les mains du Milord, qui jurait à tue-tête ses godames les plus vigoureux. L'alerte passée, Angiolino, tout ébahi, entendit M. Tobison de Tottenwood exigeait que désormais M. de Galando reprît en sa présence une place conforme à son rang et qu'on mît fin au traitement déshonnête qu'on lui faisait subir. 3 jours donc après cette algarade, qui s'acheva par la visite de Cozzoli, M. de Galando, vêtu d'un superbe habit de velours pistache, passementé d'or sur toutes les coutures, parut à table. M. Tobison, ravi de son œuvre, but et mangea surabondamment et voulut que son nouvel ami lui fît raison, si bien que le pauvre M. de Galando, dont la santé branlait de plus en plus, s'en fut couché en fort mauvais état. Un inconvénient inattendu commençait pour lui. M. Tobison l'avait pris en amitié et ne pouvait plus se passer de sa présence. Mais M. de Galando n'approchait son bienfaiteur qu'avec un grand trouble et une terreur manifeste. La haute taille de l'Anglais, sa corpulence, ses poings énormes, sa grosse voix l'épouvantaient. Le moindre de ses gestes le terrifiait. À table, M. Tobison avait une façon furieuse de porter sa fourchette à sa bouche et de brandir son couteau qui faisait pâlir son timide voisin. De plus, M. Tobison avait une terrible brusquerie de mouvement que sa force rendait encore plus redoutable. Ses poignées de main formaient étau, ses bourrades amicales renversaient. Aussi, M. de Galando vivait-il dans une inquiétude continuelle et il aurait préféré 100 fois éplucher les légumes avec Jacopo et laver la vaisselle avec la Romagnole que de manger les quartiers de viande saignante que l'excellent M. Tobison lui faisait servir sur son assiette et dont il exigeait impérieusement qu'il se chargeât l'estomac sous prétexte qu'il le trouvait faible, débile et malingre. Pourtant, le séjour de M. Tobison à Rome touchait à sa fin et il devait partir bientôt pour Naples. Il fut convenu qu'Olympia et Angiolino l'accompagneraient jusqu'à Frascati. Depuis longtemps déjà, les deux associés désiraient y acheter une villa pour y passer au frais la belle saison. Ils étaient riches. L'Anglais venait de se montrer fort généreux et M. de Galando continuait à rapporter gros. De plus, on leur avait parlé d'un bien à vendre là-bas et, d'après le rapport que leur en faisait le vieux Tito Barelli, tout à fait à leur convenance. Il se promettait de le visiter avec soin. M. de Galando ne devait pas être du voyage. Il continuait à maigrir et à tousser beaucoup. Sa faiblesse était grande. Les viandes, dont le bourrait M. Tobison, ne le réconfortaient guère. Visiblement, il baissait. Mais, le matin du départ, les voitures prêtes, Milord dans la sienne avec Olympia, Angiolino dans une de louage, au moment où l'on partait, on vit arriver M. de Galando, qui, jeté à la tête des chevaux, pleurant et criant, s'imaginait qu'on allait l'abandonner et que M. Tobison emmenait Olympia avec lui au bout du monde. En vain expliquait-on à M. de Galando qu'on reviendrait le soir même, il ne voulait rien entendre et se cramponnait à la portière comme un vieil enfant têtu, si bien que M. Tobison ordonna à Angiolino de prendre avec lui l'ami français, ce qu'Angiolino fit en maugréant, se souciant peu de parader en compagnie de cet antique mannequin en habit vert qui sentait l'office et le graillon, car M. de Galando, malgré sa dignité reconquise, ne laissait pas d'aider par goût, de temps à autre, à leur besogne, Jacopo et la Romagnole, près de qui il se reposait des transes que lui donnait la turbulente amitié de M. Tobison de Tottenwood. Et, tout en roulant vers Frascati, dans l'air frais du matin, Angiolino trouvait qu'il était grand temps que le Milord disparût, que M. de Galando réintégrât les cuisines et reprit sa souquenille, et il voyait déjà l'habit vert perroquet, chef-d'œuvre de Cozzoli, quitter les épaules maigres du comte pour, planté sur un bâton, servir d'épouvantail aux oiseaux.